Bienvenue dans le podcast Marketing Manager. Dans cet épisode, j'accueille un invité assez différent de ce dont vous avez l'habitude sur ce podcast, puisque c'est Théophile Hélier, qui est une des personnes les plus connues dans le milieu de comment gagner de l'argent sur Internet et devenir riche, parce qu'il a 250 000 abonnés sur YouTube et il publie des vidéos sur tout ce qui est le business en ligne, mais surtout l'immobilier et la bourse, l'investissement, c'est un peu son trip. La raison pour laquelle j'invite Théophile aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, il y a seulement 2 semaines, je suis tombé par le biais d'un ami sur le listing qui me disait que Théophile était en train d'essayer de vendre l'ensemble de son business pour 5 millions de dollars. Et il faut savoir que c'est un ami avec qui j'ai un débat récurrent. Et ce débat récurrent, c'est est-ce que Marketing Mania est vendable ? Et j'ai toujours maintenu que Marketing Mania n'était pas vendable parce que c'était trop basé sur moi et mon implication personnelle et que si vous retirez Stan Leloup, finalement, il y a toujours la chaîne YouTube, mais ça va péricliter. Et j'ai découvert que Théophile Hélier, du coup, vendait son business et essayait d'en tirer 5 millions de dollars. Et je me suis dit, tiens, Théophile a réussi peut-être de trouver un moyen de vendre ce type de business et j'ai tout de suite été curieux. Et donc, j'ai fait une vidéo qui exprimait à la fois ma curiosité sur ce deal, mais aussi mes doutes, notamment au niveau de la stratégie qui était suivie, au niveau de la tarification. Je me suis même demandé un moment s'il essayait vraiment de vendre ou si c'était une espèce d'opération marketing élaborée. Et j'ai fait cette vidéo qui a été publiée sur la chaîne Marketing Mania Daily et qui est devenue en quelques jours la vidéo la plus vue de l'histoire de cette chaîne avec des dizaines de milliers de vues. Je me suis dit, tiens, il y a de l'intérêt du public sur cette histoire. Moi-même, je suis ressorti de la vidéo avec toujours beaucoup de questions. Il y avait certains points qui n'étaient pas éclaircis. Je n'étais même pas clairement sûr que Théophile Hélier essayait vraiment de vendre son business. Et donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux t'exprimer à ce sujet-là et corriger peut-être les choses que j'ai dans ma vidéo ou en tout cas faire valoir les éclaircissements sur les points qui ont été soulevés et aussi simplement, bah, moi, m'éclaircir sur le processus de vente d'un business de ce type qui n'est pas facile à vendre, il est le bienvenu pour venir. Et donc, il a accepté l'invitation et aujourd'hui, il est sur le podcast. On va parler principalement de la vente de son business. Pourquoi vendre un business qui tourne bien, qui fait de l'argent et finalement qui est relativement peu de travail pour lui puisqu'il nous explique comment il tourne les vidéos et c'est assez optimisé. Pourquoi est-ce qu'il veut le vendre? Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent? Est-ce que ce type de business est réellement vendable? Si on retire Théophile, comment est-ce que le business peut perdurer sur le temps? Quel type d'investisseurs vont être intéressés par ce type de business? Et là, j'ai appris pas mal de choses sur les différents montages que les gens peuvent vouloir faire ce type de business. On va parler du prix, de est-ce que le prix de 5 millions n'était pas peut-être un peu élevé, de quels sont les paramètres qui vont influer sur ce prix, de quelle serait la fourchette qui lui l'intéresserait à vendre, et aussi de combien est-ce que ça coûterait de vendre un business en termes de commissions et de brokers, etc. Et finalement, on va parler des détails du process, de comment ça marche de vendre un business de ce type-là, des négociations, de combien de temps ça prend, puisque ça fait un moment qu'il essaie de le vendre et qu'il est toujours en négociation. Finalement, je pense que ce que vous allez découvrir, c'est que Théophile et moi, on a des styles évidemment qui sont très différents et tout le monde qui nous suit sur YouTube se rendra compte qu'on n'a pas tout à fait les mêmes choses qu'on met en avant. Après, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller faire qui est le plus éthique, qui montre de l'argent. Théophile le dit lui-même qu'il a été, notamment par le passé, assez flashy. Il a montré beaucoup d'argent, beaucoup de monde, beaucoup de voitures, beaucoup de villas. Et en un sens, je pense que lui, il le voit comme étant une espèce de défense contre les haters, ce qui n'est pas faux. En un sens, une fois que vous avez montré suffisamment d'argent, bah, les gens vous insultent comme quoi vous êtes un sale riche et plus comme quoi vous êtes une personne qui fait semblant d'avoir de l'argent. Donc, en un sens, vous échangez des haters contre des autres. En tout cas, c'était une conversation extrêmement intéressante qui m'a appris des choses que je ne connaissais pas, même sur le potentiel de vendre mon propre business. Et donc, pour ça, ça vaut le coup d'écouter. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Théophile Hélier. Bienvenue Théo sur le podcast.
Ben merci à toi, ça fait plaisir.
Donc, la raison pour laquelle je voulais absolument discuter avec toi, tu t'en doutes, c'est parce que tu es en train de faire ce process de vendre ton business, sachant que moi, ça fait des années que j'ai un débat avec un pote qui est de dire « Mais non, ce genre de business, tu ne peux pas le vendre, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. » Et donc, ouais, tu es en train de me montrer potentiellement que c'est possible, en tout cas, t'essaies de trouver un moyen. Ce que je veux commencer par voir avec toi, c'est en fait, c'est le pourquoi. Parce que j'ai une intuition de comprendre le pourquoi tu aurais envie de vendre ce business. Et je pense que la plupart des gens ne l'ont pas et la plupart des gens se diraient « Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il vend ce truc si de toute manière, c'est du revenu quasiment passif, comme on le verra tout à l'heure, où il y a des moyens quand même où tu peux produire beaucoup de contenu d'un coup. » Donc la question, c'est pourquoi vendre ce business qui marche bien?
Ok. Bon, je dirais que c'est un ensemble de choses. Je dirais que déjà, ça fait plusieurs années que je fais des vidéos sur YouTube, que je vends des formations. Donc, je suis très content, ça marche bien, mais je pense que c'est comme tout, au bout d'un certain moment, t'évolues, et puis un jour, t'as envie de faire un petit peu autre chose. Et je pense que c'est un mélange entre l'envie d'aller faire de nouvelles choses, de nouveaux challenges, et aussi le fait que, en ce moment, suite à la crise du coronavirus, il y a des opportunités d'investissement qui risquent de ne pas se représenter avant quelques années. Et aujourd'hui, je pense qu'avoir du cash, il a énormément de valeur, en fait, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la bourse ou d'autres investissements. Aujourd'hui, avoir du cash, c'est hyper intéressant, comme pas plus tard que ce mois-ci, il y a une semaine, j'ai acheté mon appartement à ma résidence principale pour moins 25% en dessous du prix du marché. Pareil, mon ameublement, je l'achète moins 30 à moins 40%. Donc, c'est en fait un mélange de plusieurs éléments qui fait qu'aujourd'hui, vendre, pour moi, c'est intéressant. Il y a aussi le fait que suite au confinement en France, on a tous réalisé des années qui sont assez incroyables en termes de bénéfices. Et donc, la valorisation de ma boîte, même si on en reparlera juste après concernant les critères, je pense que ça va être difficile d'augmenter la valuation de ma boîte aujourd'hui suite à l'année incroyable qu'on a eue. Et de plus, avec le pouvoir d'achat qui, je pense aujourd'hui, si on a beaucoup de cash, peut nous permettre d'investir vraiment avec des marges de sécurité très importantes. Donc, c'est un mix des deux. Nouveau challenge et puis pouvoir d'achat en termes d'investissement qui est très fort en ce moment.
Je vais revenir sur l'histoire des investissements et ce que tu vois, toi, comme opportunité vers la fin de l'émission. Ce qui est étrange ici, c'est, en un sens, tu pourrais dire, finalement, ton business, il génère ce cash, tu vois. Et finalement, tu peux aller faire tes autres opportunités à côté. Qu'est-ce qui fait que tu dis, il faut que je m'en sépare, tu vois? Est-ce que tu vois ça comme un calcul purement financier, rentabilité, ou est-ce que tu vois ça en partie comme un calcul émotionnel, de dire, il faut que je m'en détache, il faut que je me récupère mon identité, il faut que je me récupère aussi un peu le cerveau qui finalement tourne sur ce business un petit peu, même quand tu ne travailles pas dessus?
Ouais, je pense que c'est aussi en effet un gain de tranquillité, parce qu'on ne va pas se mentir, générer du chiffre, c'est bien, aider des gens, c'est bien, mais c'est quand même énormément de responsabilité. C'est quand même dans notre métier une image qu'il faut surveiller constamment. Il faut faire bonne figure, il faut savoir en montrer assez pour être pris au sérieux, mais d'un autre côté, pas en montrer trop pour éviter qu'on tourne dans le bling-bling. Il y a de ça quelques années, j'étais très show-off. Je montrais beaucoup, et je pense que c'est là, j'ai aussi le fait que les gens me prennent un peu plus au sérieux, où je commence à trouver d'autres manières que de montrer des trucs qui coûtent cher à la caméra. Et il y a aussi le fait que admettons que dans 10 ans, j'ai envie de rentrer en France. J'ai envie de pouvoir marcher dans la rue 5 minutes sans qu'on m'interpelle, même si pour l'instant, je dois avouer que je suis très chanceux, parce que les personnes qui m'interpellent dans la rue quand je suis en France sont généralement des profils d'entrepreneurs et d'investisseurs. Donc, ça reste quand même des gens qui sont intéressants. Mais je ne veux pas tomber dans le…
Tu te fais beaucoup interpeller, parce que moi, ça ne m'arrive jamais.
Ah, peut-être.
Je me suis dit, c'est pas assez, j'ai pas assez d'abonnés encore. Je sais pas, ça ne m'arrive jamais, moi. Ça m'est arrivé deux fois à Bangkok. Mm-hmm. Mais après Bangkok, tu vois, sur 2 ans. Donc, finalement, ce n'est pas énorme. Et puis, Bangkok, je pense que les gens me reconnaissaient assez facilement, parce que je sors quand même un peu du lot. Je suis un peu trop grand pour être anonyme à Bangkok. Mais les Français se disent, c'est forcément lui, tu vois. Mais à Paris, pas vraiment, par exemple, tu vois. Je me suis jamais fait... Je sais pas, peut-être que aussi les gens à Paris sont un peu plus dans le snobisme, ou dans le je vais pas faire ça, c'est un peu vulgaire et tout, tu vois. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je me suis dit, 300 000 abonnés, c'est pas assez pour se faire reconnaître. Mais toi, du coup, ça t'arrive de te faire reconnaître?
Ah ouais, surtout à Lille. Alors, c'est vrai qu'à Paris, les gens sont plus discrets. Ça m'arrive de nombreuses fois de recevoir un message sur Instagram après pour me dire « Ouais, est-ce que c'est toi? Je t'ai vu passer là, etc. » Donc, c'est vrai qu'à Paris, les gens sont un peu plus réservés, mais je dirais qu'honnêtement, à Paris, c'est au moins toutes les 15 minutes qu'on vient me voir, mais j'en suis très content. Okay. Et à Lille, par contre, c'est honnêtement toutes les 5 minutes. Je pense que du fait que je viens de la région de Lille, je pense que les gens se sentent… Puis je sais pas, je pense que quand on voit sur YouTube, on se dit « Ouais, le mec doit être un peu snob. » En fait, en réalité, pas du tout… Donc, du coup, quand les gens viennent me voir, ils sont très surpris, très contents. Et voilà, généralement, ça se passe bien. Mais c'est, je pense que c'est juste une histoire où j'ai envie d'être personne, en fait. Je pense que quand on n'est pas célèbre du tout, célébrité, on se comprend, 200 000 abonnés, 300 000, c'est à peu près le même délire. Mais je pense que c'est une histoire de tranquillité où on a envie d'être personne. En fait, quand on est personne, je pense qu'on a envie de devenir quelqu'un. Et je pense qu'une fois qu'on est un petit peu connu, et puis je pense que… Une fois qu'on a expérimenté ça, on a, je pense, le côté être personne, je pense que c'est… Moi, ça me convient davantage. Donc c'est un petit mix de tout ça.
Moi, j'avoue que je réfléchis pas mal à ça, de tous les angles d'attaque que les gens ont sur toi, et de quel va être le prochain mec qui va faire une vidéo humoristique pour se foutre de ta gueule. Tu penses à ça? C'est un truc qui tourne dans ta tête?
Par le passé, ouais, pas mal. Mais je me souviens, il y a eu une année, c'est pas cette année, c'est l'année dernière, où il y a eu beaucoup de clash de youtubeurs qui faisaient des vidéos sur des gens qui vendaient de la formation en ligne. Il y a même eu une émission sur M6 sur un conférencier dans le développement personnel. Et je pense que, honnêtement, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, tous ces mecs-là, c'est bon, ils ont survécu. Alors, je vois pas, en fait.
Ok.
En fait, je pense qu'à titre personnel, émotionnellement, ouais, si c'est ton premier clash, ça peut faire un peu mal. Mais je pense que, je pense que c'est l'un dans l'autre, il y a un gain de visibilité, tu vois. Demain, il y a une émission sur M6 qui dit, voilà, telle personne, elle manipule les gens pour vendre leur formation, etc. Je pense que c'est vrai que de prime abord, les gens peuvent se dire, ah oui, quelle mauvaise personne. Mais je pense que ça touche quand même une audience qui va se dire, bah tiens, je vais essayer de penser par moi-même. Et de toute façon, ces personnes qui sont sensibles aux influences de la télévision, je pense que ce n'est pas du tout notre type de client. Généralement, les gens qui veulent créer une boîte ou investir, c'est des gens qui sont un peu moins influençables. Ou en tout cas, il faut que ce soit plus fin qu'une émission télé où on va simplement faire passer des passages.
Ouais, la télé, effectivement, ça ne va jamais trop inquiéter. Mais je pense que ouais, sur YouTube, il y a quand même un truc où plus tu montes, plus tu deviens une cible. Et en fait, c'est assez facile de faire des vues en crachant sur les gens. Moi, je te dis, tous les jours, j'ai des messages en me disant tu veux pas cracher sur telle ou telle personne. Parfois, les gens me confondent avec un espèce de débunker de la manipulation. Et donc, à chaque fois qu'il y a une entreprise ou un YouTuber qui fait un truc, je te dis, JP Franguin, j'ai dû avoir 200 messages sur tu veux pas faire une vidéo pour démonter ce mec. Quoi. Enfin, je veux dire, tout YouTube a fait une vidéo pour démonter ce mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, tu vois? Enfin, en fait, au contraire, s'il avait fait un truc bien, j'aurais dit, bah voilà, les trucs bien qu'il fait. Mais en fait, si c'est juste pour me moquer, tu vois, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça marche beaucoup sur YouTube et donc les gens le font. Moi, je te dis, j'ai pas mal de potes qui ont des gros business. Et dans des trucs, tu vois, où ils sont totalement inconnus, genre, tu vois, des gros business Amazon FBA ou des systèmes de sites de niche ou des applications, tout ce que tu veux. Et parfois, je me dis, putain, ils n'ont pas du tout à penser à ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont ce gros business et personne ne sait qu'ils existent. Et au final, ils sont derrière les coulisses à tirer les petites ficelles de la marionnette. Et en un sens, c'est une position plus confortable que d'avoir ce gros truc et c'est toi qui es assis en haut. Et tu te dis, je ne sais pas si un jour... si un jour j'en ai marre, ou si un jour je pète un câble, ou si un jour les gens se retournent contre moi, tout l'édifice peut s'écrouler, tu vois, sur ma petite personne. Et je ne peux pas me planquer derrière le truc.
Et c'est clair, ça de toute façon, de faire du personal branding ou de faire une image de marque, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais de ce que je vois quand même dans notre entreprise, sur le business qu'on gère, de la manière dont on le gère, on a quand même l'avantage où les gens peuvent rapidement s'identifier à nous. On a quand même cet avantage, voilà, on a quand même cet aspect humain où aujourd'hui, on est quand même, je sais pas, de plus en plus de grandes boîtes qui contrôlent quasiment tout. Et nous, on a quand même la chance de pouvoir aider des gens à notre échelle. Donc, je pense que bon, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais c'est clair que si on se recentre sur le sujet de la revente, ce n'est pas forcément un point positif. Donc, on reparlera si tu veux après. Je pense que tu as des questions concernant comment ça peut se passer une fois à la transition de l'entreprise s'il y a un nouvel investisseur. Et il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi simple que si c'est une image de marque, ça c'est certain.
Donc, c'est justement un point sur lequel je veux rentrer sur la question de… on a parlé des avantages et des inconvénients. C'est clair qu'il y a beaucoup d'avantages. En fait, pour moi, le grand avantage d'avoir un business qui est basé sur ton image personnelle, c'est qu'en fait, tu es irremplaçable. C'est-à-dire que demain, une personne te suit. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire la formation de Théophile ou la formation de Stan. Ils sont obligés d'aller chez toi et tu es un peu irremplaçable. Mais d'un autre côté, voilà, l'autre côté de la pièce, il y a le côté personnel dont on a parlé tout à l'heure et il y a le côté plus business qui est… Est-ce que ça peut se revendre? Est-ce que je peux me remplacer? Je peux facilement recruter des gens pour remplacer certaines fonctions. Tu peux probablement recruter des gens pour remplacer plein de trucs. Et le jour où tu n'es plus face caméra, les gens s'en rendent compte tout de suite. Donc, je veux parler de ça. Et la première chose dont je veux parler, c'est ton processus actuel pré-revente d'enregistrement de vidéos, parce que là, c'est un point sur lequel on est très différent. Moi, je vais faire des vidéos qui prennent extrêmement longtemps. Je n'ai jamais une vidéo d'avance. C'est-à-dire que la vidéo qui sort… Là, tu vois, hier, on a sorti une vidéo qui était le bilan de l'année 2020. Elle était finie 2 heures avant, tu vois. Elle est sortie le 31 à 14h parce que c'était le bilan de l'année 2020. Je voulais la sortir en 2020, tu vois. Et là j'ai zéro vidéo sur la suite. Donc, c'est vraiment moi la manière dont je procède sur YouTube, en tout cas sur ma chaîne principale. C'est vraiment en flux tendu total parce que je n'ai pas le temps de produire d'avance. Donc, c'était un process très différent qui permet de produire beaucoup d'avance.
Oui, pour ma part, donc j'ai pas mal expérimenté ces dernières années des différents tournages. Et bon, c'est vrai que comme tu le dis, il y a des avantages et des inconvénients aux différentes méthodes qu'on utilise. Mais les deux fonctionnent, on le voit bien. Je pense qu'on doit surtout l'adapter en fonction de ce que nous, nous voulons et en fonction de ce qu'on est prêt à accepter. En l'occurrence, pour ma part, ce que je fais, c'est que je vais organiser un tournage chaque année d'environ 32 jours où je vais filmer 5 vidéos par jour, ce qui me fait 156 vidéos. Ces 156 vidéos correspondent à 3 vidéos par semaine ensuite pendant un an. Donc ça, c'est…
Juste un point de vue technique à ce moment-là, c'est 32 jours d'affilée ou c'est 32 jours avec des pauses?
Ça va dépendre. Ça va dépendre de l'énergie de mon équipe. Généralement, je travaille avec 2 caméramans et ça dépend aussi de nos déplacements. Par exemple, l'année dernière, on avait fait Budapest, on avait fait Bangkok et on avait fait Bali. Et du coup, bah, mes équipes aussi, c'est des humains, donc ils ont aussi besoin de se reposer. Parfois, on a un petit pépin technique, donc il suffit qu'il y ait un peu de matériel qui casse, donc on prend une journée. Donc officiellement, en amont, on ne prend jamais de jours de repos. Par contre, dès qu'on voit qu'on en a réellement besoin, on se prend une bonne journée complète et puis on se repose tous. Moi, généralement, ce que je fais durant ces journées de tournage, je fais 3 vidéos le matin et 2 vidéos le soir, ce qui me fait un petit break le midi de 3-4 heures. Et puis aussi, au niveau de la lumière, de toute manière, c'est beaucoup plus agréable parce que le midi, on ne peut pas tourner, le soleil est trop haut, ça fait des ombres terribles. Et généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire 10 jours de tournage à peu près d'affilée avec une journée de repos. Mais honnêtement, ça peut paraître intense, mais je fais très peu de reprises. En fait, une vidéo… en termes de tournage, ça va nous demander réellement tournage, 45 minutes maximum.
Pour une vidéo qui dure combien de temps une fois qu'elle a été montée?
Une vidéo qui va durer à peu près 10 à 12 minutes. Une vidéo qui va durer jusqu'à 20 minutes, ça va nous prendre jusqu'à 1h30 de tournage.
Donc ça fait quand même, finalement, tu dis que tu te reprends beaucoup, mais ça fait quand même pas mal. Parce que moi, ça, c'est équivalent à ce que moi je fais, et moi je me reprends énormément, parce que la manière dont je pars sur un script, et j'essaye de parler à peu près 2000 à l'heure. Donc, en fait, mes rushs, ils sont infâmes. Donc, du coup, tu as quand même pas mal à cuter ou à refaire. Qu'est-ce qui se passe? T'improvises, tu as un script? Comment ça se passe?
Alors, moi, ce que je fais en amont, c'est que j'écris moi-même mes vidéos avec des sujets que j'ai recherchés en amont. Donc, c'est un mélange de questions de ma communauté, c'est un mélange de recherche de mots-clés. Et c'est un mélange aussi de ce que j'ai envie de partager qui n'est absolument pas recherché. Et donc, avec tout ça, j'écris ensuite mes vidéos. Ça me prend à peu près, je dirais, un mois de tout écrire.
D'écrire les 150 vidéos?
Ouais, 156 vidéos, ça me prend à peu près un mois.
Et c'est quoi? C'est des bullet points?
Exactement, c'est des bullet points. Et à ça, je vais lier mon expérience personnelle. Donc, je vais juste me rajouter des petites annotations. Par exemple, raconter telle histoire… ou des statistiques que je ne vais pas sortir de moi-même. Donc, je vais faire des recherches en amont et je vais utiliser tout ça pour créer une vidéo. Mais je préfère qu'une vidéo paraisse moins bien travaillée, mais naturelle, plutôt qu'une vidéo qui paraisse trop travaillée, mais où ça peut paraître faux. Parce que j'ai remarqué que les personnes préfèrent, par exemple, se former auprès de quelqu'un qui n'est pas parfait, mais où ça a l'air réel, plutôt que quelqu'un qui va être… hyper droit dans ses pompes, mais on a l'impression que c'est un prof d'université qui te dit comment créer une boîte, mais qui n'en a jamais créé une. Donc, j'aime bien aussi, avec le flow, raconter un petit peu ce que je veux. Et c'est pour ça que je n'écris pas trop. Par le passé, j'avais écrit vraiment des gros textes, des gros pavés. J'avais même délégué une grosse partie de la rédaction. Et franchement, j'aime pas. Je préfère que ce soit beaucoup plus tourné vers mon identité, vers mes histoires personnelles, vers mon ressenti. Même si ce que je raconte, ce n'est pas forcément… tout le temps, parfois, je peux avoir tort. Hein. Et ça m'est arrivé des fois de dire des choses sur ma chaîne YouTube où voilà, je me suis gouré dans une stat ou un truc comme ça. C'est pas grave. Je pense que dans le tas, il y a quand même 99% des infos qui sont intéressantes. Et voilà. Mais en tout cas, j'essaie de rester naturel.
Et du coup, le jour J, tu as un prompteur? Comment est-ce que tu gardes les yeux sur tes notes ou est-ce que c'est des feuilles de papier?
C'est tout simplement mon iPhone. Donc, j'écris sur mon ordi. Et puis, le jour de tournage, j'ai juste 2 caméras. Donc, il y a la caméra trépied qui est en face de moi. Et généralement, j'ai un autre caméraman qui va tenir soit une caméra à main levée ou soit avec un stabilisateur. Et en fait, c'est très simple. Bon, franchement, j'ai plutôt une bonne mémoire ces dernières années. Je me suis énormément entraîné à retenir. Donc, c'est simple. Mon téléphone, je vais le planquer soit dans ma poche et durant les cuts, je vais checker un petit coup d'œil si vraiment le texte est long. Mais sinon, généralement, je vais essayer de tout retenir et puis on va essayer de le faire en one shot. Donc, honnêtement, les seules choses qui sont ralentissantes dans un tournage, c'est lorsqu'on est en extérieur, c'est les éléments extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Notamment lorsque j'étais à Bali lors de mon dernier tournage, Une vidéo en extérieur, ça nous prend en moyenne 2 fois plus de temps qu'en intérieur. Donc, et pourtant, je n'ai pas l'impression que le résultat est, ou le nombre de vues est 2 fois plus important qu'en intérieur. Donc, c'est pour ça que cette année, je vais faire plus d'intérieur que d'extérieur, comparément à l'année précédente. Et bah, typiquement, l'année dernière, donc, j'étais à Bali. Bon, il suffit qu'il y ait un moustique qui commence à te piquer le cou. Et voilà, tu te retrouves au début de la vidéo, tu es clean, et puis après, tu as un deuxième coup. Ou alors, il suffit que, bah, par exemple, c'était énormément le cas à Bali où le temps était très changeant. Donc, au niveau de la luminosité, c'est dur à gérer. Parfois, on me demandait d'attendre. Il peut y avoir, par exemple, le chant des mosquées. Typiquement, dans le nord de Bali, il y en a énormément. Donc, du coup, à un moment, j'étais à la fin d'une vidéo et boum, on entend des chants. Donc, du coup, bah, on est obligé de couper. C'est plein de petits détails comme ça qui sont très difficilement maîtrisables en extérieur. Donc, c'est pour ça qu'on va favoriser de plus en plus l'intérieur.
Ta stratégie sur YouTube, elle est vraiment basée autour des mots-clés, du référencement, faire un maximum de vidéos et attendre qu'elles sortent dans les recherches essentiellement?
Exactement. Donc, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, l'avantage et les inconvénients de faire ce type de tournage, c'est-à-dire tout tourner d'avance et bah, tout publier au fur et à mesure, c'est que déjà, je suis extrêmement serein concernant la pérennité de la chaîne YouTube, où je me dis, bon, il y aura toujours du contenu, c'est planifié à l'avance, je ne suis pas stressé de me dire est-ce que j'aurai le temps ou quand est-ce que je vais pouvoir faire ça la semaine prochaine, parce que le problème que j'avais auparavant, c'est que je voulais organiser des gros projets, j'aime bien organiser des gros projets, et malheureusement, le fait que si je n'ai pas une vidéo qui sort dans une semaine, bah, ce gros projet, pour moi, c'est compliqué à prévoir. Donc l'avantage, en tout cas, ce qui me plaît avec cette méthode, c'est que rien ne m'empêche de me barrer 3 mois, de faire un trip je ne sais pas où, n'importe où dans le monde, ou rien ne m'empêche de gérer mes journées au quotidien comme je le souhaite. Je n'ai pas ce stress de me dire est-ce que la prochaine vidéo, ça va paraître en temps et en heure. Le stress de savoir que mes monteurs, potentiellement, ils peuvent être occupés aussi avec d'autres personnes. Il y a aussi le fait que, bah, l'air de rien, les coûts sont extrêmement réduits parce que mes équipes de tournage, je les fais venir soit de France ou soit il y en a certaines maintenant qui vivent en Thaïlande. Et donc, l'avantage, c'est que les coûts sont réduits. Les personnes, je leur dis, bah voilà, vous travaillez pour moi 32 jours dans l'année. Forcément, ils ne vont pas me faire le même prix que si je leur demande un tournage de 3 jours. Donc ça, c'est très intéressant. L'inconvénient, je dirais à ça, c'est que tu ne peux pas ou tu peux difficilement faire des vidéos d'actualité. Donc ça, c'est quand même un point qui est assez dérangeant, surtout moi qui est dans le domaine de l'investissement en bourse. Traiter des sujets intemporels, c'est très bien. Cependant, traiter des sujets d'actualité de temps en temps, je pense que c'est très intéressant et c'est ça qui peut vraiment donner un bon coup de pouce à la chaîne YouTube. Mais voilà, je m'en passe parce que je trouve qu'il y a quand même d'autres avantages derrière qui sont plus importants pour moi dans la balance.
Et du coup, en termes de la réflexion, en termes des vidéos, moi, c'est un point auquel je pensais sur le dernier jour parce que j'ai maintenant 2 chaînes. J'ai la chaîne principale et la chaîne daily qui ont une fréquence de publication qui est extrêmement différente. Sur la chaîne principale, j'ai fait 8 vidéos cette année. Sur la chaîne daily, on fait quasiment une vidéo par jour. Et en fait, c'est vrai que c'est assez agréable de ne pas t'inquiéter de la performance d'une vidéo en particulier. En fait. C'est-à-dire que sur la chaîne principale, je me dis, OK, cette vidéo, je l'ai vraiment target pour qu'elle aille faire ses 300 000 vues. Tu vois. Et si elle ne fait pas ses 300 000 vues, je me dis, putain, elle n'a pas fait ses 300 000 vues. Et en fait, sur la chaîne daily, en fait, non, on poste des trucs et on se dit, bon, on va voir ce qui fonctionne, on va tester des trucs, on va faire des expériences. Et du coup, je me rapproche un peu plus de ce mode de référencement ou de vidéos, qui est de produire beaucoup de vidéos et se dire, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont faire 5000 vues, il y en a qui vont exploser. Et c'est vrai que du coup, c'est plus une stratégie de volume et à l'échelle plutôt que de dire, je vais faire ma petite vidéo parfaite qui va vraiment exploser en individuel, ce qui est une approche assez différente de YouTube. Mais c'est vrai que pour le coup, je reconnais ce côté de sérénité d'esprit. Et aussi sur la chaîne Daily, pour le coup, là, c'est le seul endroit où moi, j'ai plein d'avance parce qu'en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'ils prennent les épisodes qu'on a fait sur le podcast et les découpe en extraits. Mais en fait, maintenant, ils ont un système d'extraits où ils les intercalent, ce qui fait que je pense qu'un podcast qu'on enregistre, dans 2 mois, on aura encore des extraits de Théophile Hélier sur la chaîne, tu vois, qui seront découpés et intercalés avec 2 trucs, ce qui est pas mal. Je dois avouer que par rapport à ma chaîne principale, évidemment, sur la chaîne principale, c'est impossible de faire ça parce qu'en fait, si je voulais faire de l'avance, ça me prendrait 1 an de travail pour avoir de l'avance. Je m'en sortirais jamais, tu vois, c'est une autre approche. Mais c'est vrai que cette approche, en termes de sérénité d'esprit, elle a quand même pas mal de valeur. Donc, on a parlé là du process d'enregistrement que tu as aujourd'hui. La question, c'est maintenant, comment est-ce que ça fonctionne si toi, tu disparais de l'équation? Donc, un investisseur revient, rachète le business. J'aurais comparé tout à l'heure de tarifs, mais donc la personne rachète le business et se dit, bah, tiens, moi, je vais faire tourner cet actif. Si c'est un site de niche où la personne écrit des articles et après il y a des pubs dessus, tu comprends assez bien comment ça tourne. Là, en l'occurrence, bon, on a un actif qui est très clair, qui est la chaîne actuelle, les vidéos actuelles, qui a son trafic et qui va le maintenir. Maintenant, la question, c'est je veux que le business se maintienne pendant des années. Comment est-ce que je fais ? Toi, tu vas me livrer des vidéos d'avance avec ton système. Comment est-ce que je maintiens en tant qu'investisseur ce business une fois qu'il a été repris ?
Ce que je te propose, c'est de te répondre à ta question en deux parties. Une première partie sur la raison pour laquelle les gens veulent acheter une boîte et ce qu'ils achètent réellement. Et ensuite, dans un deuxième temps, si tu veux, je te réponds sur la transition avec un nouveau propriétaire. Si ça te va ?
Ça me va. Partons. Ouais, donc, explique-moi pourquoi est-ce que les gens seraient intéressés pour acheter une boîte comme celle-là.
Alors, on avait eu l'occasion d'en parler un petit peu la dernière fois quand on s'était eu au téléphone. Et donc, de ce que j'ai vu pour l'instant avec les investisseurs qui étaient intéressés, c'est qu'il y a la partie qu'est-ce qu'on rachète ? Est-ce qu'on rachète un actif ou est-ce qu'on rachète une entreprise qui a un certain historique ? Et pour l'instant, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait quand même 50% des gens qui voulaient me racheter l'actif en lui-même pour faire perdurer le business et puis en sortir un cash flow. Et il y en a d'autres, donc 50%. Et ça m'a vraiment étonné parce que au départ, pendant longtemps, en fait, je voulais vendre mon business et je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, mais il n'y a personne qui va me racheter. Il n'y a personne qui veut racheter une chaîne YouTube de quelqu'un. Et après, je me suis dit, mais ça coûte quoi d'essayer ? Ça ne me coûte rien d'essayer. À la limite, un peu de temps, je vais voir. Et puis, au mieux, j'aurais gagné un peu d'expérience. Donc, je me suis dit, allez, je teste. En plus, dans ma vie, je me suis dit un nombre de fois incalculable où ça ne va pas marcher et où ça a marché. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer. Puis, je pars dans l'idée où ça ne marchera pas. Et puis, si ça marche, bah, c'est bien. Et donc, du coup, j'étais confronté à des investisseurs et je me suis rendu compte quand même que 50% voulaient juste me racheter l'entreprise et ils n'en avaient rien à faire de ce qu'il y avait dedans. Enfin, quand je dis rien à faire, c'est j'abuse même un tout petit peu parce que, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est lever de la dette avec ma boîte et investir dans l'immobilier ou alors racheter des plus grosses boîtes. Par exemple, si ma boîte, pour parler concret, s'ils la rachètent 3, 4, 5 millions ou même 10 millions, j'en sais rien. Si eux, derrière, veulent effectuer une opération qui, par exemple, leur demande 20 millions de dollars, eh bien, du coup, ils vont utiliser la boîte. Donc, ils vont faire, par exemple, un crédit à titre perso pour acheter ma boîte, par exemple. Avec ma boîte, ils vont l'endetter pour acquérir une plus grosse société. Et en fait, de crédit en crédit, ils vont faire simplement des sauts. Ils vont gagner 10 ans ou 20 ans en termes de cash flow. Et puis, leur but, c'est d'acquérir des très grosses boîtes pour des acquisitions finales qui sont peut-être en corrélation avec des business qu'ils ont en ce moment. Par exemple, je prends un exemple et je ne le sors pas du tout. Je ne peux pas parler dans ce podcast des profils de personnes que j'ai eues au téléphone ou encore moins du nom de ces investisseurs. Mais prenons l'exemple de quelqu'un qui a une boîte, par exemple, dans le domaine de la télécommunication. Il fait un crédit à titre perso, il rachète ma boîte. Avec ma boîte, il fait un crédit, il va racheter un concurrent de sa propre boîte dans le domaine de la télécommunication et il va faire ensuite une fusion avec sa boîte initiale. Donc, si on recherche vraiment les motivations des investisseurs, honnêtement, généralement, c'est trop compliqué parce que c'est des gens qui ont parfois 5 ou 10 années d'expérience de plus que nous et on ne comprend pas leur motivation. Et de toute manière, ces gens-là ne le disent pas parce que ils n'ont pas envie de raconter leur vie ou ils n'ont pas envie d'expliquer pourquoi ça les regarde. Y a généralement, ça peut être aussi des investisseurs, par exemple, qui veulent étendre une gamme de produits. Par exemple, tu détiens Marketing Mania. Admettons que quelqu'un, des produits à vendre sur Internet et ça correspond pile poil à ton audience, il veut racheter ton actif, c'est-à-dire ta chaîne YouTube, il va te racheter. Ou si par exemple, il veut lever de la dette et que toi, tu as une entreprise, j'en sais rien, à Taïwan, et que lui veut faire de l'immobilier à Taïwan, il peut te racheter, encore une fois, sans aucune idée de développer ton business, juste de faire un crédit avec sa boîte, enfin avec ta boîte du coup, qui devient la sienne, et puis effectuer une opération. Et concernant la deuxième partie de la question, donc quelle est la possibilité pour un investisseur de perdurer ce business s'il souhaite acheter l'actif en question ? Des possibilités, il y en a plein. Maintenant, de ce qu'on a discuté avec les investisseurs, c'est qu'il y en a surtout une qui va plaire. Donc, les trois possibilités qu'on a réfléchies pour l'instant, c'est un, forcément, donc que je continue à faire des vidéos, mais que je ne sois plus propriétaire de l'entreprise, mais que je ne sois que soit un salarié de la boîte ou alors un prestataire extérieur qui s'engage à produire des vidéos sur un certain nombre d'années. Ça peut être deux, le fait de mettre quelqu'un à ma place, donc un autre businessman qui serait là à partager ses conseils dans le domaine de la bourse, de l'immobilier ou de la création d'entreprise. Et
ça,
trois,
tu penses que ça marcherait bien?
pas du
Ou tu
tout.
penses que ça mettrait une claque à la chaîne?
Non, ça mettrait une claque à la chaîne. Et moi, c'est ce que j'ai dit à un des investisseurs qui voulait mettre quelqu'un d'autre à ma place. Et je lui ai dit honnêtement, en fait, il voulait mettre quelqu'un qui était bon en élocution, mais qui n'avait pas d'expérience solide dans le business ou l'investissement. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est que une communauté, c'est très dur à monter. Par contre, en un claquement de doigts, ça peut nous échapper. Donc, il faut mettre quelqu'un qui n'est pas seulement un bel orateur, il faut mettre quelqu'un qui a aussi de l'expérience. Et c'est pour ça que j'ai dit aux investisseurs, j'ai dit franchement, je vais être honnête avec vous, je ne pense pas que ça va marcher. Si vous mettez quelqu'un qui juste sait lire un script correctement, pourquoi est-ce que vous ne l'auriez pas fait avant? Je vois pas quelle est ma plus-value dans le bordel, si ce n'est de racheter mes abonnés. Et honnêtement, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, cette idée-là, je l'écarte, mais des investisseurs me l'ont demandé, ça allait très loin, on a fait des candidatures, etc., avec des personnes. Franchement, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, il faut quelqu'un, c'est possible, mais je pense qu'il faut un profil extrêmement particulier, quelqu'un qui a la même personnalité que moi, quelqu'un qui a au moins le même niveau d'expérience que moi et qui, en plus, parle à peu près de la même façon que moi. Donc, je pense que ça fait énormément de critères. Si on veut développer cette chaîne dans cette direction-là. Et honnêtement, je ne pense pas que ce soit la solution la plus simple, ni encore moins la plus rentable. Et donc, la troisième idée qu'on a explorée, c'est d'effectuer des vidéos d'animation, ce qu'on appelle dans le domaine de la vidéo, c'est des vidéos institutionnelles. Donc, des vidéos qui sont plus professionnelles, avec souvent des images de stock photo ou des choses comme ça, enfin, des vidéos de stock photo. Ça peut être des citations inspirantes, ça peut être. Il y a pas mal de chaînes qui font déjà des choses comme ça avec un logiciel qui s'appelle VideoScribe ou alors des logiciels qui sont concurrents. Et ça, je pense que c'est une très bonne alternative, mais je pense qu'il faut que la transition se fasse au fur et à mesure. Et pour rentrer dans la pratique, parce que je pense que ni moi, ni toi, ni aucun autre YouTuber ne peut donner son avis là-dessus, je pense que ceux qui doivent donner leur avis là-dessus, ce sont les abonnés eux-mêmes. Et donc, ce que j'ai dit à un des investisseurs, je dis, tu sais quoi, ce qu'on peut faire, c'est que si tu veux, tu crées une vidéo avec la personne qui tu penses peut me remplacer, je fais une vidéo moi-même et si tu veux, on fait une vidéo d'institution et on va voir ce qui marche le mieux. Et je pense qu'il faut en fait effectuer une transition progressive. Il n'est pas possible que du jour au lendemain, c'est comme si on enlevait Julien Lepers sa question pour un champion, toutes les mamies et tous les petits papys vont être très tristes. C'est ce qui s'est passé. Donc je pense qu'il faut effectuer une transition au fur et à mesure et il faut pas remplacer Julien Lepers. Comme ça, sur un coup de tête. Il faut y aller au fur et à mesure. On voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, et ensuite on peut prendre des décisions. Personnellement, je n'ai pas envie de risquer que le futur acheteur il voit crasher le business parce qu'il a des décisions trop brutales. Donc, progressivement, c'est comme ça que ça doit se faire, je pense.
Donc l'option que tu favoriserais toi, c'est laquelle?
Moi, personnellement, ce serait de continuer de faire moi-même mes vidéos. Moi, je pense que ce serait le mieux pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le système est prouvé, ça marche. De deux, moi, faire des vidéos, ça me plaît. Et la communauté, je pense qu'elle apprécie mon travail, c'est pour ça qu'elle est abonnée. Et en termes de coût de production, c'est ce qui serait le plus facilement maîtrisable, dans le sens où, voilà, on a déjà fait ça depuis des années, on sait comment ça marche. Donc, il n'y a pas trop de changements à ce niveau-là. Et donc, l'investisseur, je pense que lui aussi sera rassuré. Il y a aussi le fait que j'aurai toujours un œil sur le business. Parce que forcément, si je sors du business et qu'on me demande que de gérer des décisions stratégiques marketing de temps en temps en tant qu'un prestataire externe, forcément, je ne serai pas autant investi que si c'est moi qui fais les vidéos. Je ne le comprendrai pas aussi bien le business que si c'est moi qui fais les vidéos. Donc, moi, je pense que cette solution-là, c'est celle qui, un, serait la plus sécuritaire, ferait perdurer le plus le business et rassurerait le plus l'investisseur. Maintenant, je pense que les vidéos d'institution, je pense que c'est aussi une très bonne piste à explorer et je pense qu'une transition progressive vers voilà, une vidéo par semaine en plus qui est institutionnelle et voir comment ça réagit, je pense que ce n'est pas un gros risque parce qu'au mieux, ça rajoute de la valeur à la chaîne YouTube et au pire, c'est juste une vidéo qui plaira un peu moins. Et je pense que c'est à partir de là où sur le long terme, on peut voir comment faire une transition.
Dans ce cas-là, ça revient sur la question de pourquoi vendre, parce qu'en fait, tu ne te retires pas vraiment du business et tu fais encore les vidéos, tu as encore tu as encore cette image publique, tu as encore le fait de devoir y réfléchir, de devoir créer du contenu. Donc finalement, ça en revient à ce point que la seule chose que toi, tu tires de cette vente, c'est de récupérer ton capital, en fait. C'est de sortir tes billes et de récupérer le cash maintenant que tu aurais sinon eu sur les 3 prochaines années.
Mmh. Oui, c'est ça. Je dirais que je ne suis pas fatigué de faire des vidéos. Je pourrais continuer d'en faire, il n'y a pas de problème. Ce que je recherche énormément, c'est de constituer un capital très important, enfin très important à mon échelle, de pouvoir investir et saisir des opportunités qui aujourd'hui sont présentes et ne se représenteront pas peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, c'est vrai que ça me permettrait pas d'être, entre guillemets, tranquille sous un cocotier, mais en tout cas, ça me permettrait de pouvoir saisir des opportunités d'investissement très intéressantes.
Juste sur un point annexe en termes financiers qui rentre un peu dans les détails, mais ça m'intéresse de savoir si tu as regardé le fait de prendre de la dette à point de vue personnel basé sur ton business. C'est-à-dire dire, voilà, moi, j'ai ce business qui fait X, tu vas voir ta banque, tu fais combien est-ce que vous me prêtez sur la base de ces revenus-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable, qui te permet du coup de sortir le capital et d'avoir du capital à investir sans devoir vendre ton equity, mais plus en prenant de la dette sur la base de cet equity dans le business? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui est possible? Est-ce que tu l'as envisagé?
Oui, bien sûr. J'ai eu des rendez-vous avec le banquier de ma banque pro. Donc, mon entreprise se trouve aux États-Unis. Et donc, j'ai eu un appel avec mon banquier. Et malheureusement, j'ai une entreprise que j'ai créée qui est à responsabilité limitée. Mais cependant, il me demande d'avoir un numéro de sécurité sociale américain pour pouvoir emprunter avec ma boîte aux États-Unis au travers de cette LLC. Et donc, la seule personne qui pourrait emprunter avec cette boîte, c'est soit un Américain. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hein. Les Américains qui voulaient racheter ma boîte m'ont dit, bah voilà, nous, c'est pour lever de la dette et puis perdurer le business en bonus. Mais nous, c'est pour lever de la dette. Et les personnes qui sont plutôt sur le marché francophone qui voulaient me racheter, eux, en l'occurrence, mon entreprise, donc d'un point de vue fiscal, ça ne les intéresse pas. Ce qui va les intéresser, c'est plutôt l'actif pour pouvoir développer leur boîte ou alors acheter un business avec du cash flow.
Ok. Et dans ces deux options, tu penses que tu as meilleure chance de vendre c'est laquelle option? La personne qui rachète pour l'actif parce qu'il veut la chaîne YouTube ou la personne qui rachète pour l'entité parce qu'il veut lever de la dette?
Franchement, ça dépend complètement de la personne. Et c'est compliqué parce que demain, il peut y avoir un Américain qui a une idée. Quelqu'un qui pèse 50, 100 millions de dollars ou même 3, 4 millions de dollars et qui est persuadé que c'est la bonne chose à faire pour se développer et il va me racheter sur un coup de tête. Donc, c'est très compliqué. Je dirais que ça peut se faire très rapidement, mais c'est un process qui est aussi très long. Moi, c'est un process que j'ai commencé, je pense que tu en avais parlé dans ta vidéo, aux alentours de juin 2019. Et c'est très compliqué à dire. Je n'arriverai pas à le prévoir, mais ce qui est sûr, c'est que les investisseurs sont intéressés de développer le business, mais l'intérêt est divisé concernant le point de vue fiscal. Est-ce qu'ils lèvent de la dette ou pas, une fois le rachat de l'entreprise réalisé?
Ok. Je voudrais toucher très rapidement sur la question de l'équipe qui est en place actuellement, puisqu'évidemment, ça va être un facteur majeur qui va faire qu'une boîte va être facile à vendre s'il y a une équipe et des process qui sont définis. Parle-moi un peu de l'équipe qui est autour du business aujourd'hui.
Bah écoute, c'est très simple. J'ai une personne qui travaille avec moi depuis 5 ans. C'est la même. C'est quelqu'un qui est issu de la même ville que moi, donc de Lille, et qui est parti vivre au Guatemala. Il s'est trouvé une petite femme, des enfants, un petit toutou. Il fait ses petits barbecues sur le toit de sa maison. Et voilà. Et ça se passe très bien depuis 5 ans. Et
donc lui, il fait un peu tout la question opérationnelle, le support client, ce genre de choses?
Exactement. Il s'occupe du support client. Il s'occupe de la planification de mes vidéos YouTube, l'optimisation SEO de mes vidéos YouTube. Il s'occupe aussi de mon agence marketing, vu qu'on a créé une agence marketing il y a de ça pile poil un an, je crois. Et bon, l'air de rien, c'est quand même pas mal de choses, vu qu'on vend à peu près 3-4 sites par an quand même, à des tickets relativement élevés. Ça commence à peu près 10 000 euros, ça va jusqu'à 47 000 euros sans option. Donc ça, c'est surtout lui qui va s'en occuper. Par le passé, je faisais énormément de rédaction d'articles. Maintenant, j'en fais vraiment beaucoup moins parce que niveau SEO, c'est bon, on est positionné sur tous les mots-clés qui nous intéressent. Donc après, c'est juste, faut laisser faire le temps. Donc maintenant, on écrit beaucoup moins et c'est relativement tout, hein, y a pas grand-chose. Après, pour les équipes vidéo, c'est des prestataires. Je ne veux pas de personne en interne pour les vidéos parce que le domaine de la vidéo évolue très vite et certes, ça peut diminuer mes coûts. mais je ne veux pas avoir la charge mentale de me dire que je paie quelqu'un tous les mois, alors que finalement, je vais juste tourner 32 jours par an. Donc, par rapport à ma situation, ça ne me correspond pas d'avoir un salarié qui va tourner pour moi mes vidéos.
Ça marche. Donc, parlons maintenant de la question du tarif, parce que dans la vidéo que j'avais fait à l'origine, c'était un point assez clair, assez central, c'était de savoir quel était le tarif et quel était le multiple qui était cohérent là-dessus. Puisque moi, le chiffre que j'avais vu sur tous les sites, c'était 5 millions. Donc, parfois, c'était 5 millions d'euros, parfois, c'était 5 millions de dollars. Quand on a parlé ensemble en début de semaine, tu m'as dit que ce n'était pas le prix initial que tu avais mis et que ça avait été changé par la suite par ton broker.
Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'aimerais préciser pour ceux qui nous écoutent que le broker, c'est donc le courtier qui va vendre mon business ou mon entreprise, donc l'actif ou la partie fiscale. Et donc, ce broker, c'est cette personne-là qui a repris la main sur les différents sites sur lesquels j'avais listé mon site. Et lorsque j'ai commencé à vendre mon site, je m'étais dit, voilà, je vais le vendre 3 millions d'euros si je le vends en direct. Ensuite, les brokers, en fonction des brokers, ont tous des commissions différentes. Certains vont prendre 5%, d'autres 10%, d'autres 12%, d'autres 15%. Et donc, en fonction de ça, moi, de toute manière, c'était relativement simple. Je dis pas de problème. Moi, je veux en retirer autant et il faut que j'ai au moins ce prix-là après la commission du broker.
Donc, tu avais fixé un tarif et le tarif, c'était 3 millions ?
Ça dépendait des brokers parce que ça dépend beaucoup du portefeuille qu'ils ont en fait. Par exemple, un portefeuille d'investisseurs, par exemple aux États-Unis, qui veulent vendre rapidement, tu vois, ça dépend aussi du mindset de la stratégie du broker. Si quelqu'un veut le vendre rapidement et le broker a besoin d'argent rapidement, il va essayer de le vendre le moins cher possible et s'en débarrasser le plus vite possible, peut-être même en diminuant sa commission. À l'inverse, un broker, je prends l'exemple de Flippa parce que c'est avec Flippa que je travaille, c'est des gens qui sont patients, c'est des gens qui veulent en tirer un bon prix, c'est des gens qui ont du cash. Donc on peut se permettre de vendre plus cher le business. Et la raison pour laquelle, surtout, on a augmenté le prix du business, c'est que entre le moment où j'ai listé mon business et entre le moment où la vente va réellement s'effectuer, bah, mon business, j'ai travaillé dedans pendant 6 mois. Et donc forcément, un business en juin 2019, entre ce que j'ai fait en juin 2019 et aujourd'hui, il s'est passé quand même quelques petites choses, notamment le fait d'avoir rajouté un an de vidéo d'avance à la chaîne YouTube, par exemple, le fait d'avoir sorti mon livre, le fait d'avoir amélioré nos process sur, par exemple, le recouvrement des paiements, toutes ces petites choses, en fait, qui font que mon business aussi est plus stable, vu qu'aujourd'hui, 90% de mon bénéfice, ce sont des revenus récurrents issus des abonnements. Donc, il y a non seulement le fait que le broker prend sa commission et l'inclut dans le prix de vente. Il y a aussi le fait que je vais travailler plus sur le business et donc du coup, le business a plus de valeur. Il y a aussi le fait que l'historique de l'entreprise en question a plus de chiffre d'affaires et donc du coup peut lever plus de dettes. Donc, c'est un ensemble de choses qui fait que un business peut être listé en juin 2019 à 3 millions d'euros et que 6 mois après, il soit listé à, je ne vais pas dire au double parce que c'est quand même abusé. Je ne pense pas avoir créé le double de valeur en 6 mois. Mais je dirais qu'un listing raisonnable, par exemple, pour un business comme ça, de toute façon, je pense que déjà, il faut, entre guillemets, faire peur aux investisseurs qui vont me faire perdre du temps. Moi, honnêtement, j'ai perdu énormément de temps avec des profils d'investisseurs qui me disent « oui, j'ai assez d'argent pour acheter l'entreprise » et qui finalement, au moment de fournir une POF, Proof of Fund, eh bien, du coup, il n'y a plus personne. Donc, les personnes jouent l'autruche. Donc, en fait, ils prennent des informations sur ton business pendant un certain temps. Ensuite, on arrive à généralement la création de la structure, c'est-à-dire comment va se passer la transition de l'entreprise. Et enfin, on fournit ce qu'on appelle une LOI, donc une Letter of Interest, et la POF que j'ai évoquée juste avant. Et donc, c'est à ce moment-là où on peut commencer à établir les contrats. Et du coup, moi, j'ai perdu beaucoup de temps en fait, avec des gens qui me disaient « oui, c'est bon, j'ai 3 millions de dollars ». Puis en fait, les gens en ont 2. Donc maintenant, on vise par exemple 5 pour que les gens nous disent « oui, c'est bon, en fait, machin, j'achète ». Et puis, on ne va pas être déçus s'ils nous disent « voilà, j'en ai que 4 », vu qu'on va essayer de vendre une partie du business, vu que je peux vendre une partie du business. Par exemple, si je dis, je garde la partie je sais pas, vous voulez me racheter juste le blog, vous voulez me racheter juste la chaîne YouTube, vous voulez ma liste email ou pas, est-ce que vous voulez racheter le business aussi que j'ai sur Amazon où je vends mon livre. Donc, avoir les actifs qu'ils veulent. Et donc, en fonction de ça et en fonction aussi de mon implication, par exemple, quelqu'un qui me dit, je te rachète 5 millions de dollars, je lui fais, par exemple, 2 ans ou 3 ans de vidéos d'avance à un certain rythme de vidéos par semaine. Maintenant, si quelqu'un me dit, voilà, je te le propose 2 millions de dollars, je dis, bon, bah, par contre, je te le vends, mais tu ne me poses pas une question après, quoi. C'est-à-dire que je te fais les transferts, c'est échange, basta. Et encore, pour 2 millions de dollars, c'est à peu près ce que j'ai fait en 2020. Du coup, j'ai fait ma comptabilité hier et ouais, c'était pas mal. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi je le vendrais à 2 millions de dollars. J'ai eu pas mal de propositions à des gens qui ont démarré à 3 millions et ils m'ont dit, ouais, finalement, 2 millions, machin. Je dis, mais vous êtes des malades. Je dis, non. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui, à la fin du process, parce qu'on est dans un process avancé et que les deux parties ont envie de vendre, finalement, je me retrouve avec des gens un peu cheap qui me disent, ouais, bah voilà, il me manque 1 million de dollars, comment on fait? Bah, on le fait pas, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas dans l'urgence de vendre. Je préfère attendre 2-3 mois et puis me manger 1 million de dollars de plus plutôt que de dire oui et puis le vendre beaucoup moins, quoi. Surtout que ça tourne pas mal, donc pas de problème pour attendre.
Donc au niveau de ta target, on est autour de 2,5 à 4 en gros sur la fourchette. Tu dirais ça?
Ça dépend encore une fois de mon intervention. Par exemple, quelqu'un par exemple qui me le rachèterait pour parler concrètement. Quelqu'un, par exemple, qui me le rachèterait 3,5 millions, je dirais, bah voilà, je te donne 1 an de vidéo d'avance et pendant 1 an, je serai disponible 24 heures sur 24, tu as mon numéro de téléphone, on s'appelle et puis voilà, si jamais tu veux que je fasse quelque chose en particulier, je peux m'en occuper. Et voilà, donc il y a une période d'accompagnement sur la transition pendant 1 an. Cependant, si quelqu'un me dit, bah voilà, moi, je veux racheter 3,5 millions et puis je veux rajouter, par exemple, 500 000 dollars d'extra pour que tu me fasses X vidéos d'avance, dans ce cas-là, je pourrais dire, bah, OK, ça marche. Donc, c'est vraiment en fonction de mon implication. Par exemple, un des investisseurs avec qui on est actuellement en discussion, c'est quelqu'un qui a un business qui est à peu près similaire au mien et qui m'a demandé, donc certes, de racheter mes actifs. Lui, la partie fiscalité, ça ne l'intéresse pas. Il veut racheter l'actif. Et lui, ce qu'il veut surtout, c'est que je devienne un genre de prestataire pour son entreprise qu'il a personnellement. Ce qu'il veut racheter aussi, c'est le fait de copier mon business model. C'est-à-dire qu'il a un business qui ressemble au mien, mais qui ne fonctionne pas de la même façon. Et il veut que j'implémente la manière dont mon entreprise fonctionne dans la sienne. Donc forcément, le prix n'est pas le même.
Un autre point en termes de process ici de vente qui m'avait marqué, et c'est aussi un point que j'avais fait dans la vidéo, c'était quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que ton site était listé dans plein d'endroits, notamment sur des sites qui avaient l'air vraiment random. Il y en avait un qui s'appelle jevoirmonsiteinternet.fr, je crois, qui a vraiment la gueule d'un site WordPress. Je me suis dit, ça, c'est un site pour vendre des sites de niche qui font 300 euros par mois, tu vois, mais lister un business à 5 millions dessus, ça m'a vraiment semblé. Je me suis vraiment dit, mais en fait, est-ce que c'est pas une espèce de stratégie marketing où en fait, il nous le fait à l'envers pour nous dire, je l'ai listé partout pour que le plus de gens en voient et en parlent, et en fait, pour faire du marketing de viralité sur le business, sur ces chiffres. Parce que je me suis dit, mais qui va racheter un business? Tu vois, pour moi, tu n'étais pas à l'endroit où je me suis dit, une personne va mettre 5 millions. C'était vraiment un site où il n'y avait aucune data qui était vérifiée. L'historique de revenus, c'était sur 3 mois. Enfin, tu n'achètes pas un truc à 5 millions sur 3 mois de revenus. Tu vois. Ouais. C'était vraiment, pour moi, ciblé plus sur, je t'ai vendu mon site de niche ou un petit e-book sur Amazon. Pourquoi est-ce que tu as listé ton business à autant d'endroits au départ? Est-ce que finalement, ta stratégie n'a pas un peu évolué plus sur des brokers professionnels au fil du process plus que sur ces sites un peu plus... C'est quasiment le bon coin, tu vois, à un certain point. C'est, tu peux lister un truc en espérant que quelqu'un tombe dessus.
Exactement.
Comment est-ce que tu penses à cette histoire de listing?
Alors, au départ, je me suis dit, je vais essayer de vendre le business moi-même. Et en fait, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment atteindre une élite de personnes qui ont du cash ou alors qui peuvent lever des fonds. Et donc, du coup, j'ai listé mon site sur les quelques sites que je trouvais... qui pouvait lister mon business. Et je me suis dit, ça ne me coûte rien, je le fais. Et puis, même s'il y a un visiteur sur le site, si ça se trouve, ce sera l'acheteur. Donc, je n'ai en rien écarté l'idée que même un site fait sur WordPress pouvait vendre un business à 5 millions d'euros si ça me permettait de au moins rentrer en contact avec ce type de personne.
Tu n'avais pas cette idée que... Tu voulais pas que ça se sache ou t'avais pas peur que tes abonnés se disent « Putain, Théo, il est en train de se casser, il nous abandonne, on va arrêter de venir chez lui ?» T'as pas traversé l'esprit, ça?
Non, en fait, si, j'y ai pensé, mais ça m'a pas. Je pense pas que les gens vont arrêter d'acheter si je ne suis plus le propriétaire de la boîte. En fait, ce qu'il faut, c'est expliquer qu'il y a une différence entre sortir du business et ne plus être le propriétaire. Si par exemple, demain, je vends ma boîte et que moi, déjà, je la vends dans un état qui est parfait. Je ne laisse pas de merde sous les tapis. J'essaie de mettre à jour toutes mes formations. C'est compliqué, mais on y travaille. Dernièrement, j'ai mis à jour une énorme formation. Ça m'a pris 6 mois. Donc, forcément, je ne peux pas mettre à jour toutes mes formations tous les ans. Mais généralement, toutes mes formations, au maximum tous les 2 ans, sont mises à jour. Et il y a une différence, en fait, entre ne plus être dans le business du tout, en mode disparaître, je prends mon argent et puis je me cache, je sais pas où. Et il y a une différence entre
Mais est-ce que
vendre
la personne
l'entreprise.
random qui voit un listing sur un site, tu vois, comprend cette distinction? C'est ce que je me dis. Effectivement, tu peux toujours l'expliquer, mais comme tu n'as pas vraiment communiqué dessus pour expliquer le pourquoi du comment, on pouvait avoir l'idée de se dire, en fait, il est en train d'essayer de se casser en secrète et on ne va plus jamais le revoir, tu vois, puisque tu n'en as pas parlé publiquement et tu ne l'as pas expliqué. Et après, peut-être que tu vois, c'est pas une problématique. Moi, c'est une problématique qui me serait venue en tête. Je me suis dit, tiens, si ça va prendre X mois pour le vendre, est-ce que je vais pas avoir des questions? Est-ce que les gens vont pas se dire, il est en train de se casser, tu vois?
Ben, moi, je
Mais
pense
ça, ça t'a
que
pas, ça t'a moins gêné.
non, je pense pas que ça va empêcher les gens de rejoindre des formations. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vrai que ça peut avoir un impact sur les ventes, mais je pense pas que l'impact soit du tout aussi important que ce qu'on peut le penser. Après, je peux me tromper. Et encore une fois, je pense que c'est à la communauté de demander. C'est pour ça que je pense que lors d'une transition, il faut vraiment prendre en compte la communauté et demander ce qu'ils veulent. Et trouver ce qui peut le mieux marcher tout en respectant ce que moi j'ai envie de faire et aussi ce que l'investisseur qui rachètera le business veut faire. Et non, la disparition en mode Houdini, ce n'est pas au programme. Non.
Ah, bien sûr, c'est pas, tu vois, c'est pas ce que je dis, mais la perception du truc. Parlons du coup de ce déroulement, parce que je t'ai interrompu, mais tu as commencé par lister un petit peu partout pour le faire toi-même. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es aperçu que ça n'allait pas être la manière de faire et qu'il te fallait des intermédiaires qui étaient. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont professionnels de la vente de business, à la fois sur la valorisation et à la fois sur le point qui est encore plus important, c'est le carnet d'adresses. Ils ont les gens, ils se disent, tiens, cette personne, je sais qu'elle est capable de mettre un chèque. Comment est-ce que la transition s'est faite pour toi vers. La manière dont tu travailles aujourd'hui.
Bah exactement, tu as tout dit. J'ai essayé de le faire moi-même et je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas un PECO et qui prétendaient. Et honnêtement, j'étais surpris en fait du nombre de personnes qui me faisaient perdre du temps. En fait, je me suis dit, mais moi, si je voulais racheter un business et que je n'avais pas un sou, mais je ne parlerais même pas à quelqu'un qui vend un business 3, 4, 5 millions de dollars. Enfin, et en fait, j'étais surpris du nombre de personnes qui m'ont fait perdre du temps. J'en ai eu quelques-uns sur Skype, communiqué par email, etc. Et moi, je suis quelqu'un de très direct, dans le sens où, voilà, quel est votre budget, comment est-ce que vous souhaitez structurer la chose? Parce que les gens me demandent beaucoup d'infos sur mon business, mais moi, je ne parle pas de mon business si je ne reçois pas une preuve des fonds. Parce que, voilà, si tu veux connaître mon business et que tu me poses des questions et derrière, tu n'as pas d'argent, bah, tu le copies et puis voilà, c'est terminé. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Et après, j'ai travaillé avec 3 brokers en non exclusif. Ça veut dire que j'avais le droit de travailler avec n'importe qui simultanément. Et je me suis rendu compte que, encore une fois, hein, les 20-80, 80% de brokers sont totalement pas professionnels et 20% sont excellents. Donc aujourd'hui, si je travaille avec Flippa, c'est que ben, Flippa, ce sont des personnes qui sont, je pense, les mieux placées et qui vendront mon business.
Donc Flippa, juste pour les gens qui n'ont pas le contexte, c'est une des plus grosses places de vente de sites internet aujourd'hui, peut-être la plus grosse, qui vend des sites à peu près à tous les prix. Mais effectivement, c'est un acteur très établi sur le marché, avec tous les gens que je connais qui sont des racheteurs de sites vont être sur Flippa, entre autres, Empire Flippers, etc. Mais ça fait partie effectivement des grosses places centrales. Et donc, je suppose que tu me corrigeras si je me trompe, mais que tu peux, si tu as un business de suffisamment en grosse taille, avoir accès chez eux à un service un peu plus direct avec un broker directement, plus que simplement la place de marché standard.
Exactement. Lorsque tu listes un business, tu peux acheter soit différentes options pour mettre en avant encore plus ton business, par exemple auprès de la liste email de Flippa, faire une vidéo avec eux. Ça peut être avoir un contact avec un sales manager. Et moi, c'est quelqu'un qui travaille donc avec Flippa qui m'a contacté et je travaille maintenant en exclusif avec cette personne. Et je préfère largement travailler en exclusif parce que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, mais si je travaille avec quelqu'un en exclusif et qu'il ne se bouge pas à fond, bah, du coup, moi, je suis dans l'attente. Alors que si tout le monde est en non exclusif, bah, ça va être un petit peu la compétition. En fait, en réalité, ça ne s'est pas passé comme ça. Les brokers, lorsqu'ils ne sont pas en exclusif, ils ne se donnent pas trop. J'ai signé avec ce partenaire de Flippa et je dois avouer que bah, je préfère largement. Il me donne des comptes rendus, on sait dans quelle direction on va. Ça me fait gagner énormément de temps et franchement, moi, ça ne m'intéresse pas du tout de parler avec des personnes en fait, qui prétendent avoir de l'argent et puis au moment où on demande une preuve de fond, bah, ils commencent à bégayer, quoi. Donc,
Et est-ce que tu peux parler du pourcentage à ce niveau-là ? Et si tu peux en parler, est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de ce que ça représente sur un broker quand tu vends un business de cette taille ?
Je ne vais pas pouvoir te dire le pourcentage que j'ai avec Flippa. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu vends ton site sur Flippa, il me semble que par défaut, tu as 15%. Et après, tout est négociable. Tout est négociable. Est-ce que tu travailles en exclusif ? Est-ce que tu travailles en non exclusif ? Quel est le pourcentage que tu veux ? Et je te donne aussi un autre exemple. Admettons que demain, moi, je trouve quelqu'un qui veut racheter mon business, mais je ne veux pas parler avec lui. C'est juste moi qui ai trouvé cette personne. Donc, je peux contacter, par exemple, mon broker et lui dire, j'ai trouvé l'acheteur. Par contre, je ne vais pas clôturer la vente parce que ça ne m'intéresse pas, les papiers, les machins, les trucs. Donc, je te donne le contact. Par contre, on signe un autre contrat, par exemple, qui dit que tu prends un tiers moins de commission parce que c'est moi qui t'ai apporté le contact. Typiquement, un broker, il va prendre entre 5 à 15%. Ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est 10%. Et 15%, c'est vraiment la tranche élevée. 5%, c'est une tranche qui est peu chère si la personne s'occupe de tout. Par contre, c'est une tranche qui est chère si c'est juste quelqu'un qui trouve le contact. Parce qu'il y a des brokers, en fait, qui vont juste intervenir sur une partie de la vente. Certains brokers vont dire, bah voilà, je vous trouve le contact et puis après, on vous l'envoie. Et puis après, c'est à toi de parler avec la personne. Donc ça ne m'intéresse pas. Il y a des brokers qui vont s'occuper de la création du contrat, de la protection des capitaux, du transfert de propriété intellectuelle, de toute la partie administrative, légale. Donc ça dépend vraiment de l'intervention en fait, du courtier et ça dépend de ce que le vendeur recherche. Par exemple, si moi j'étais ultra intéressé au fait de discuter tous les jours avec des investisseurs, bon, bah, j'aurais juste payé 5% de commission. Par contre, moi ça ne m'intéresse pas, donc je préfère donner plus, mais être tranquille et ne pas avoir à essayer de vendre un business.
Un point aussi auquel j'ai pensé, c'est que moi, tu vois, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, en fait, moi, ça m'intéresse de racheter, tu vois. Mais ça m'a pris un an, ça fait quoi, tu m'as dit, juin 2019 ça m'a pris un an et demi de tomber dessus par hasard parce qu'un pote m'a envoyé ça pour gagner un pari sur est-ce que mon business était vendable, tu vois. Et en fait, je me dis, bah, tiens, effectivement, si je voulais vendre mon business aujourd'hui, mon premier réflexe, ça serait d'aller voir tous les gens qui sont dans le domaine et de voir s'il n'y a pas quelqu'un en fait, qui veut récupérer l'actif. Parce que pour moi, ça mitige en grande partie la question de l'incarnation par une personne. Puisque si tu pars du principe qu'il faut que ce soit incarné par quelqu'un et probablement toi, comment est-ce que tu fais pour te remplacer ? Comme on l'a dit, c'est compliqué de prendre un mec random qui est capable de lire un script et lui dit « vas-y, lis des scripts, ça sera mon nouveau Théophile, tu vois, ça ne marche pas ». Donc, je me suis dit, tiens, une personne qui est positionnée sur YouTube, qui a des produits qui sont compatibles, résout pas mal de ses difficultés en fait en termes de vente et probablement voit le potentiel mieux que, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'un investisseur random qui a l'habitude d'acheter de l'immobilier voit la valeur de se dire, je vais payer des millions pour une chaîne YouTube. Tu vois. Et finalement, j'ai l'impression que tu n'es pas du tout passé par cette voie et tu n'as pas du tout essayé de faire ce truc de dire qui est en fait rachat stratégique, quoi. Comme quand tu veux vendre une boîte généralement, tu dis est-ce que Google peut me racheter parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'eux ils font ? Est-ce que j'ai tel concurrent qui essaie de récupérer de la part de marché ? Ce qui est une manière assez classique de vendre une boîte. J'ai pas l'impression que tu as essayé cette voie. Est-ce que tu pensais pas que c'était viable ? Ou pourquoi est-ce que tu n'as pas testé un petit peu cet axe-là ?
Alors, je l'ai fait. J'ai contacté les principaux acteurs qui me semblaient pouvoir me racheter sur la partie francophone. Et j'en ai pas contacté beaucoup parce que j'étais assez réticent en fait dans ce domaine-là, parce que j'ai l'impression que dans le domaine de la vente de formation en francophonie, tout le monde est vachement en mode compétition, tout le monde est vachement en mode ouais, moi je suis mieux qu'un tel machin bidule. Alors qu'aux US, c'est beaucoup plus on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Donc j'ai plutôt contacté des gens sur le marché aux États-Unis qu'en France.
Okay.
Surtout pour la partie levée de la dette, c'est quand même une grosse demande. On se rend pas compte. Moi honnêtement, j'étais hyper surpris du nombre de personnes qui m'ont dit comment je peux faire pour lever de la dette une fois que j'ai acheté votre boîte. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite lorsque j'ai travaillé avec Flippa, le partenaire donc de Flippa avec qui je travaille, donc mon courtier avec qui je suis en exclusif, cette personne a contacté quelques autres personnes qui vendent des formations.
Okay.
Mais très peu d'infopreneurs, parce qu'on avait eu cette même réflexion de se dire que on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens solvables pour acheter ce type de business, et que les personnes qui sont dans le domaine par exemple de l'investissement, la plupart d'entre eux finalement ont surtout des actifs et pas trop de cash. Donc on s'est dit bon allez, on tente quand même. Donc mon broker a contacté beaucoup de personnes qui avaient je pense les moyens de me racheter, et non, ça s'est pas fait. Et par contre, je pense que ça va se faire avec des entreprises qui sont plus brandées compagnie, mais pas des personal branding.
Ok. Pour boucler, pour terminer avec tout ça, je vais revenir sur la question de ce que tu veux faire. Donc, on a parlé notamment de cette idée que tu étais prêt à continuer à faire des vidéos et qu'un intérêt pour toi de vendre, c'était de récupérer le capital maintenant parce que tu vois des opportunités. On avait vaguement discuté la dernière fois que tu voyais des opportunités dans tout ce qui était bourse et immobilier, mais la bourse est très élevée en ce moment. Parle-moi un petit peu de comment est-ce que tu vois ces opportunités, toi, en termes de ce que tu veux faire avec cet argent et où est-ce que tu voudrais le déployer.
Alors, moi, je suis pas mauvais en analyse comptable d'entreprises qui sont spécialisées dans l'immobilier aux États-Unis, donc des foncières immobilières aux US. Donc, moi, j'ai commencé l'IMO, ça fait déjà, à titre perso, je crois que ça fait 4 ans. 4 ans, ouais. Et du coup, c'est comme si toi, tu investissais en fait sur des boîtes qui sont dans un domaine que tu connais bien. Et donc, du coup, ces domaines-là, en fait, par rapport à la crise du coronavirus, n'ont pas du tout pris beaucoup de valeur. En fait, il y a toujours des opportunités hyper intéressantes. Coronavirus, je pense qu'en fait, ça a été un accélérateur sur les marchés boursiers, sur ce qui va se passer ces prochaines années. Et ça a rendu beaucoup de gens pessimistes, mais ça a rendu aussi énormément de gens optimistes sur, par exemple, les boîtes dans le domaine technologique. Par exemple, l'entreprise Zoom, toutes les boîtes style Facebook, Apple, Netflix, etc. Tesla, j'en parle même pas. Mais je pense que moi, déjà, c'est pas mon cœur d'investissement. Je n'investis pas du tout sur des boîtes dans le domaine technologique pour la simple et bonne raison que dans le domaine technologique, je trouve que les brevets sont carrément surcotés. Par exemple, j'ai un brevet, par exemple, sur une technologie. Comme je suis le seul à avoir ce brevet, je peux dire que ce brevet m'a coûté 10 milliards en recherche et développement. Donc, la boîte, comme elle détient le brevet, elle a une valeur de 10 milliards. Et donc, moi, en fait, je ne crois pas en ça. Et je suis beaucoup plus rassuré en achetant de la pierre, que ce soit de la pierre physique ou de la pierre au format papier, du coup, en bourse. Donc là, typiquement, en ce moment-là même, comme je te l'ai dit, là, j'ai acheté ma résidence principale, d'ailleurs, dans le building dans lequel je suis actuellement. J'ai fait une super affaire. J'ai acheté entre -25 et -30% au prix du marché. Et je ne parle pas d'un studio dans le fin fond de la Creuse. On parle d'un appartement qui coûte plusieurs millions de dollars. Donc, il y a des opportunités qui sont très intéressantes dans l'immobilier, que ce soit physique ou papier. Et en bourse, il y a des choses intéressantes, notamment dans différents domaines. Par exemple, ce mois-ci, j'ai fait un investissement dans une boîte dans le domaine de l'armement et la création, la défense spatiale. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Je pense que le coronavirus a fait qu'il y a eu un mouvement des investisseurs vers des choses qui ne sont pas forcément rentables. En fait, je pense que beaucoup de gens sont trop tournés vers l'avenir et se disent parce que ça, c'est le nouveau Microsoft, ça, c'est le nouveau Tesla, ça, c'est le nouveau Skype. Je pense que beaucoup de gens confondent avenir et rentabilité. Ce n'est pas parce que une boîte fait quelque chose qui développe la planète que ça va être rentable. Par exemple, Uber, juste passez-moi un coup de téléphone quand vous allez réaliser votre premier bilan positif, parce que je comprends toujours pas qu'il y a des gens qui investissent sur ces boîtes-là. Alors certes, qui ont un super, l'application est géniale, mais ça gagne pas d'argent. Donc voilà, c'est comme Netflix qui est ultra surcoté. Si on regarde la capitalisation comparément au prix de l'action, comparément au nombre d'actions, on est sur des multiplicateurs de x30. Donc pour revenir à mon business qui est sur x3, x4. On en est encore très loin, mais mais il faut être ultra sélectif. C'est clair que je pense que plus on investit en bourse, et moins il sera possible d'investir sur des ETF ou des indices, parce qu'il y a vraiment des disparités importantes. Par exemple, je regardais encore tout à l'heure, si on prend les trois actions du S&P 500, elles ont fait quelque chose comme plus 35%, depuis le début du corona, et les 497 autres entreprises ont perdu quelque chose comme, 8% après recouvrement de ces derniers mois. Donc bref, je pense qu'il faut être de plus en plus spécifique dans ses investissements et de moins en moins essayer de diversifier. Je pense que la diversification, c'est très bien, mais je pense qu'il faut savoir à un moment donné se dire « je suis bon dans ce domaine-là, donc j'investis dans ce domaine-là ».
Justement, c'est pour rebondir là-dessus, en matière de rentabilité, moi j'ai un peu la démarche opposée, c'est-à-dire que pour moi, ce que je connais le mieux, c'est le business en ligne. Et là où tu as les meilleurs multiples et où tu as la meilleure rentabilité, c'est le business en ligne. En fait, je me demanderais pourquoi est-ce que je sors mon argent du business en ligne pour le mettre dans de l'immobilier, tu vois. Pour moi, ça me semble complètement inverse. Au contraire, il faudrait remettre cet argent dans du business en ligne que tu achètes à un multiple de fois 3 sur ses revenus. Et au contraire, au lieu de vendre tes actifs, te constituer des actifs dans le domaine du web que tu peux continuer à faire tourner. C'est dans cette direction, moi, que j'aurais pensé, justement. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Moi, je pense que toutes les décisions sont bonnes. Ça dépend surtout de ton profil. Donc toi, par exemple, dans ton profil, comme tu as envie de te développer dans le business en ligne, je pense que tu dois aller dans cette direction. Moi, en revanche, le business en ligne, honnêtement, ça me fatigue de jouer concours de quéquettes sur YouTube. J'essaie d'apporter de la valeur et des fois, j'ai l'impression que je fais du caviar à des cochons.
Sans parler de YouTube, tu vois, racheter tu rachètes des sites e-commerce, des sites Amazon FBA, des logiciels, des SaaS, tu vois, en te disant, tiens, moi là, j'ai une valeur ajoutée. J'ai racheté un SaaS demain, je peux ajouter du marketing, je peux ajouter du copywriting, je peux ajouter XY. Et je me dis, c'est un truc que je peux développer, que je peux comprendre. J'ai un avantage par rapport à me dire de l'immobilier. Il y a 1 milliard de personnes qui sont spécialisées d'immobilier. Il y en a plein qui font ça depuis 50 ans. Je me dis, quel est mon avantage? Idem sur la bourse, honnêtement. Je me dis, est-ce que sincèrement, tu crois que tu es meilleur que Goldman Sachs pour les prochaines actions, tu vois? Enfin, moi, je ne pense pas être meilleur là-dessus. Et je pense que j'ai un cercle de compétences qui est assez précis. Et justement, je me serais orienté là-dessus. Alors après, je dis ça comme si j'étais un génie. En vérité, la raison pour laquelle aujourd'hui, ça, je ne le fais pas beaucoup, c'est parce que pour le coup, il y a une problématique de temps qui est de trouver ses business. Enfin, tu as vu le temps que ça te prend de parler à des investisseurs. Ça marche dans les deux sens. Les gens qui veulent sérieusement trouver des business et racheter, c'est quasiment un travail à plein temps de vraiment trouver les opportunités, de les dénicher, de les développer. Mais je dirais que si demain, j'étais vraiment dans une problématique de « il faut que j'essaye de déployer pas mal de capital », j'aurais été dans la direction en fait quasiment inverse de la tienne. C'est intéressant de voir ça.
Ouais, je pense que c'est encore une fois une histoire de profil. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de sortir un peu du business en ligne. Honnêtement, l'immobilier, j'adore. J'adore acheter un appart, le rénover. J'achète des fois des taudis où tu rentres. Même un SDF ne voudrait pas prendre une douche chez toi. Et après, dans 3-4 mois, tu as des étudiants qui sont contents ou alors tu as des gens Airbnb qui t'écrivent des messages. Ouais, incroyable, j'ai découvert la ville, l'appartement est juste à côté de là, super déco. C'est cool. Moi, j'aime bien voir la valeur ajoutée. C'est vrai qu'avec le business en ligne, on est très en mode immatériel. Et honnêtement, c'est sympa de diversifier. J'essaie de voir aussi, pas mes vieux jours déjà, mais j'aime bien l'idée de me dire que si je travaille, c'est par plaisir. Et l'immobilier, c'est quand même ça a été un tranquillisant pour moi. Parce que le business en ligne, je ne m'en suis pas rendu compte pendant longtemps. Je me suis dit, oh, génial, je gagne en liberté. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais investir dans l'immobilier. Bon, j'ai eu l'aide de pas mal d'amis qui étaient dans le domaine de l'immobilier. Donc, du coup, ils m'ont dit, ah ouais, Théo, faudrait que tu achètes des biens, machin, on peut te montrer comment faire. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai touché mon premier loyer, j'ai senti toute cette pression s'enlever sur mes épaules que je n'avais pas senti au fur et à mesure où je m'étais dit, voilà, je me suis créé la liberté, machin. En fait, pour moi, la liberté, c'est bien de la prôner sur YouTube. Mais si demain, on arrête YouTube parce qu'on n'a plus envie de le faire, la liberté, sur quoi elle repose? Et c'est pour ça que j'ai commencé à investir dans l'IMO, dans la bourse. Et c'est aussi des choses qui m'intéressent énormément. Et voilà. Et c'est vrai que la bourse, il y a beaucoup de manières d'investir en bourse, comme en immobilier. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à être plus intelligent que Goldman Sachs ou BlackRock ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut laisser les gens les plus riches de la planète faire travailler son argent. Moi, tous les matins, je me lève. Il y a Jeff Bezos qui fait travailler mon argent comme si c'était le sien. Il y a toutes ces boîtes, toutes ces foncières immobilières, ces gens ultra riches qui font travailler mon argent comme si c'était le sien. Et je pense que tout ça, en fait, ça nous crée une liberté supplémentaire qui nous permet de gérer notre business en ligne vraiment comme on le veut. et peut-être justement de diminuer la fréquence de publication de vidéos, ce que je vais faire d'ailleurs en 2021.
Ok. Dernier point dont je voulais parler avec toi, c'était, tu avais mentionné pas mal de projets que, un peu plus perso que tu avais envie de faire. Tu avais parlé d'une chaîne YouTube, il me semble, sur les BB Guns. Tu m'avais parlé d'écrire d'autres livres. Parle-moi un peu de ces projets où tu dis, tiens, bon, les projets peut-être un peu plus passion, qui ne sont peut-être pas les plus rentables au monde, mais que tu aurais envie de faire si, mettons, si tu te sortais du business, ouais, et peut-être que tu n'aurais même plus de vidéos à faire dans l'hypothèse où tu es complètement sorti. Qu'est-ce que tu ferais de ton temps?
Ben, déjà, j'aurais plus au BB Gun, donc l'airsoft, pour ceux qui connaissent, c'est des pistolets à billes. Donc voilà, je suis encore un grand gamin, ça c'est cool. J'aime bien jouer au golf, j'aime beaucoup les sports de combat, je fais beaucoup de sport aussi. Ce que je ferais aussi, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube sur ce qu'on appelle des EDC. Tu sais, c'est Everyday Carry, c'est des petits objets que tu as sur toi qui facilitent ton quotidien. C'est tout bête, c'est des jouets pour adultes. Voilà, j'aime beaucoup ça.
Donc, tu testerais genre les derniers couteaux, les stylos, ce genre de trucs?
Exactement. Voilà. Et j'aimerais aussi créer un complexe en Thaïlande. Ça, c'est plus un projet perso, plus pour aider les Thaïlandais. J'aimerais bien créer un complexe, en fait, où on peut s'entraîner au Muay Thai et puis apprendre les valeurs du Muay Thai pour les personnes qui n'ont pas forcément l'argent pour aller dans des camps. Avoir une école plus où on donne des valeurs en fait aux Thaïlandais, pas forcément des cours, mais plus en fait un endroit où les gens peuvent avoir du social, où les gens peuvent se retrouver, avoir un but un petit peu dans leur vie. Et voilà, ça me ferait du bien en fait de faire ce genre de truc, et ça prend du temps et j'aimerais bien surveiller le projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personnellement, j'ai donné de l'argent au système universitaire de Chiang Mai par le passé. Et c'est bien, ils ont construit une bibliothèque, d'ailleurs la bibliothèque annexe de Chiang Mai University. Donc je suis très content, mais le problème c'est que je n'ai pas pu réellement suivre le projet. Donc ce que j'aimerais maintenant, ce n'est pas donner de l'argent à des associations qui vont gérer l'argent n'importe comment, mais c'est plutôt être moi-même l'association, pour tout gérer moi-même et pour être sûr que le moindre euro, ou plutôt le moindre baht, soit utilisé correctement. Donc voilà, des projets comme ça. Et puis à terme, il y a bien un moment où je vais devoir avoir un petit Théo. Et puis ce petit Théo, il aura besoin du grand Théo. Et puis du coup, j'aimerais bien avoir du temps libre en fait pour ça aussi. Ouais. Voilà, c'est un ensemble de choses.
Ça marche. Écoute, il y a trois…
Je pense que tu comprends très bien.
Ouais, ouais. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas arrêté. Hein, mais, mais voilà, je maintiens très bien les deux. Mais ouais, c'est vrai que ça change des perspectives, quoi. Mais moi, c'est un truc que j'ai dans ma tête depuis des années en fait. Donc, c'est vraiment… ça te travaille quand même un peu avant, tu vois, de te dire, ok, comment est-ce que je fais pour avoir un système qui tourne. C'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, moi en plus je dormais pas, donc j'avais vraiment des heures qui étaient infâmes, j'avais des heures qui étaient absurdes, tu vois, genre je commençais à 14h et je terminais à 23h. À un moment donné, c'était pas super compatible, tu vois, mais ça fait vraiment là, 3 à 4 ans que je suis vraiment plus calé au niveau de mes heures, tu vois, un peu plus cadré à ce niveau-là, ce qui fait que la petite, elle s'est assez bien intégrée dans tout ça. Et puis après, c'est vrai que tu apprécies vraiment d'être à la maison parce qu'en fait, c'est un truc con, mais simplement le fait de ne pas avoir de déplacement, tu vois, pour aller au bureau, etc., ça te fait gagner un moment de temps. Et après, moi, quand on a fini notre call et que j'ai envie de faire une pause, je descends, je vais la voir, je vais jouer 5 minutes et après, je remonte, tu vois. Donc en fait, je la vois un peu toute la journée, c'est pas mal. Mais évidemment, je comprends le fait que ça te force à réévaluer un petit peu la manière dont tu fonctionnes. Parce que, notamment si tu as démarré en mode entrepreneur et tu es en mode t'arrêtes jamais, en fait, ça, c'est vraiment pas idéal. Donc, il faut trouver à un moment donné une transition. Et moi, ça fait quelques années que j'avais commencé à faire cette transition, ce qui fait qu'elle était opérée, tu vois, avant la naissance. J'ai pas eu un énorme choc, en fait. J'ai pas eu un truc en me disant, putain, ma vie a changé, tout a changé. En fait, j'étais déjà assez dans ce mood-là préalablement, ce qui était plutôt pas mal. Théo, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer les épisodes. Et la première, c'est, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Ah bah le mien, ça c'est sûr, de manière totalement objective.
Ouais.
ça dépend de ce que veulent les gens. Moi, il y a un bouquin qui est hyper connu, que tout le monde connaît, c'est « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, qui est super. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça a changé mes relations avec mes parents, avec mon frère, avec ma copine. Donc, c'est pas mal. Ça dépend de ce que les gens veulent travailler. Dans le domaine de l'investissement, j'ai beaucoup aimé L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Dans le domaine de l'immobilier, honnêtement, il y a très peu de bouquins qui sont vraiment intéressants. C'est surtout, en fait, je trouve beaucoup de storytelling. Je trouve que beaucoup de gens, en fait, utilisent leurs bouquins pour faire énormément de storytelling. Et moi, en tant qu'acteur, ce n'est pas ce que j'aime le plus. Donc, en termes d'immo, je ne suis pas super fan. Je crois qu'il y a un livre que j'ai bien aimé sur l'immobilier. Je crois que c'est « Les secrets de l'immobilier ». Aussi simple que ça.
Okay.
Et pour les créateurs en ligne qui parlent anglais, c'est Epic Content Marketing de Joe Pulizzi. C'est une bible. Mais alors, j'ai lu ça, ça m'a calibré pour 5 années de contenu.
Ok, c'est-à-dire, il te parle des stratégies de création de contenu et de comment rendre le contenu intéressant, la structure, ce genre de choses.
Ouais, tout sur la création de contenu. C'est un énorme livre en anglais, mais quelle puissance ce livre.
Ok, intéressant. Deuxième question, si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il avait besoin d'entendre ?
C'est apprends plus et après applique. Moi, j'ai perdu beaucoup d'argent en bourse lorsque j'ai démarré et j'ai eu le syndrome de Daniel Kruger, il me semble. Et en fait, c'est scientifique même. Lorsqu'on commence à apprendre 5% de la connaissance réellement nécessaire pour atteindre un résultat, on se dit bah, « j'ai tout appris » et puis on a un excès de confiance. Donc du coup, on applique, ensuite on a des échecs et donc du coup, là, on a une énorme perte de confiance. Et c'est seulement en apprenant qu'on commence à reprendre confiance, et qu'on obtient enfin des résultats. Et par le passé, je pensais que j'arrivais à tout en fait. Je pensais que j'arrivais à tout et je me suis dit bah, pourquoi ces gens y arrivent et moi j'y arrive pas, donc du coup je vais le faire. Et le mindset est très bien, mais par contre il faut un minimum de connaissances. Et bon, pour les personnes qui vont nous écouter, qui vont se dire oui, mais c'est normal, ils vendent des formations qui disent ça. Moi je l'ai vécu à titre perso. Voilà, j'ai perdu 2 fois la totalité de mon capital en bourse et j'y connaissais pas grand chose. Et ensuite bah, j'ai appris des choses et puis voilà, et ça a marché. Donc. Donc, je dirais à mon Théo d'il y a 5 ans, je lui dirais calme-toi sur les investissements. N'investis pas autant alors que tu as… N'investis pas tout ton capital et vas-y, tranquille. Pendant longtemps, je m'étais dit, voilà, je vais investir dans l'immobilier. Je vais acheter 5 biens d'un coup. Donc, il faut que j'attende d'avoir 5 biens. Donc, du coup, ça me faisait peur. Donc, du coup, je ne le faisais pas. Même chose en bourse. Je me suis dit, bah voilà, il me faut autant pour générer 10 000 euros par mois. Mais comme je n'ai pas autant, bah, je ne vais pas le faire tout de suite. Alors que personne dans mon cercle d'amis n'a obtenu des résultats en bourse ou en immo qui sont incroyables en achetant directement X appart ou X action. Donc, c'est commence petit et apprends.
Dernière question, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ?
Ouais, j'aime beaucoup celle, il me semble que c'est de Albert Einstein qui disait c'est la clé de la connaissance. Non, la clé est la... C'est quoi déjà ? C'est la connaissance et la clé. Mais l'application en est le trésor ou quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup cette citation parce que ça me rappelle que bah, tout le blabla ne vaut rien en fait face à une application. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie de prôner. Et moi, ça m'a toujours un petit peu attristé, tous ceux qui font des études qui durent 5-10 ans en école de commerce ou n'importe où ailleurs et qui peut-être même ne les ont pas fait et ont énormément de connaissances, mais ne passent pas à l'action. Et je trouve ça dommage. Je pense qu'en fait, beaucoup de personnes ont déjà assez de connaissances, mais juste il leur manque un tout petit peu d'application pour juste atteindre la prochaine étape. Je pense que tout le monde vise beaucoup trop gros.
Donc, le problème inverse que toi, tu avais au départ, en fait.
Exactement. Exactement. Ouais.
Ouais, je pense qu'il y a vraiment, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la question inverse, effectivement, de ils emmagasinent beaucoup de choses, mais sans vraiment passer à l'action. Et finalement, je trouve que c'est une minorité de gens qui passent à l'action sans trop de connaissances. Tu vois, je me dis souvent, à mon avis, c'était plus dans la minorité, tu vois, de cette situation. Mm. Et moi, j'étais plus dans la majorité au départ. Tu vois, moi, j'étais vraiment la personne qui aurait pu, moi, j'aurais pu très bien lire sur le pièce en ligne pendant 5 ans et toujours y être. Tu vois, enfin, j'ai à un moment donné. Je me suis vraiment bougé à fond, mais j'ai grandi avec ce mode assez prudent. Tu vois. Ce qui n'est pas forcément gagnant, parce que finalement, tu t'aperçois que tes connaissances théoriques, elles ne t'amènent pas si loin que ça. Donc finalement, en fait, tu perds beaucoup de temps et tu n'apprends pas tant que ça, tant que tu n'es pas vraiment sur le terrain. Sur ce, bah justement, on va boucler l'épisode. Merci Théo pour d'être venu et d'avoir partagé tout ça sur la vente du business. Moi, c'est un sujet sur lequel j'étais vachement curieux.
Merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir de pouvoir partager tout ça. Et puis, c'était très intéressant. Donc, merci. Et puis, peut-être à bientôt. Et puis, merci.
Avec plaisir. Salut Théo.
Ciao, ciao.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous aimez ce type de podcast et vous préférez les écouter en audio, vous pouvez bien sûr retrouver le podcast en audio sur toutes les plateformes de votre choix, iTunes, Spotify, Google Podcast, etc. Quelle que soit votre plateforme de choix, si vous êtes un fan du podcast, laissez-moi une évaluation 5 étoiles sur la plateforme parce que ça m'aide à trouver de nouveaux auditeurs et à développer le podcast et avoir de nouveaux invités intéressants. Et finalement, si vous êtes intéressé par ce business model de création de contenu de chaîne YouTube afin de capturer des emails et de vendre des formations, j'ai une formation 100% gratuite par email sur le sujet qui s'appelle « Construire une audience qui achète » et qui se trouve à marketingmania.fr/audience. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.